Bon, il y a une question.
Jean-Timothée, il y a une question qui lui brûle les lèvres.
Partage hier matin. C'est dans votre intervention d'hier, dans le deuxième point, vous avez dit si nous sommes là, c'est que Dieu l'a voulu. Et cette affirmation, elle peut parfois me poser question. Alors, l'exemple que j'avais pris hier, c'est un couple d'amis qui ont eu trois enfants. Et le troisième enfant n'était pas viable. Ils sont allés jusqu'au bout de la grossesse. Donc voilà. Et je me dis, est-ce que dans un cas comme celui-là, est-ce que c'est Dieu qui l'a voulu? Alors, on pourrait aussi transférer cette question-là aussi par rapport à notre condition d'être homosexuel. Est-ce que si nous sommes homosexuels, est-ce que c'est parce que Dieu l'a voulu?
D'abord, je vais vous faire une grande révélation. C'est que je ne suis pas Dieu. Donc, du coup, je n'ai pas la réponse à toutes les questions. Et c'est important, je trouve, déjà, de commencer comme ça. C'est important. D'abord, parce que parfois, on peut avoir l'impression, ou l'Église peut parfois donner l'impression, sans doute, ou des gens dans l'Église, peut-être même particulièrement des prêtres dans l'Église, que pas de problème, posez toutes les questions, on a les réponses à toutes les questions. Ben, je n'ai pas la réponse à toutes les questions, évidemment. Ma remarque, elle était de manière plus générale. D'abord, parce que je m'adresse pas que à des personnes qui sont elles-mêmes homosexuelles, même si c'est évidemment ce qui nous réunit parce que éventuellement un de nos proches l'est. Et donc, voilà, c'est une réalité pour chacun, qu'on soit ou qu'on soit pas homosexuel en tout cas. Je crois que, oui, Dieu veut la vie de chacun. Et j'entends bien que c'est plus facile à comprendre quand tout va bien et qu'on est en bonne santé que... Dans le cas, en tout cas, de cet enfant, sans doute qu'il faut distinguer deux choses. La première, c'est de se dire que rien n'a lieu sans que Dieu ne le veuille, au sens où, parce que Dieu est Dieu, sinon ça va être incompatible avec la définition même qu'on se fait de Dieu, rien n'existe sans que Dieu ne le veuille, parce que Dieu est le maître des temps et de l'histoire. Voilà, après on sait qu'aussi l'histoire avec Dieu, elle est contrariée, c'est-à-dire que de là, il faudrait qu'on dise alors que Dieu voulait par exemple le péché originel, évidemment, logiquement, ça n'a pas de sens. Il y a un désordre du monde, et on peut considérer que le handicap et la maladie d'un enfant, et a fortiori sa mort prématurée, et la douleur que ça implique chez les parents, n'est pas quelque chose qui est voulu par Dieu, c'est-à-dire que Dieu ne veut pas le mal. Forcément, c'est l'absence de Dieu, et en même temps, parce qu'on est croyant et parce qu'on croit dans le mystère d'incarnation, on croit que même ce que Dieu ne veut pas, pourtant il est capable de venir l'habiter, puisqu'il est venu habiter le péché, il est venu habiter le mal. C'est bien ce que on dit quand on dit de Jésus qu'il est venu porter le poids de nos péchés, hein. Dans les discours que ceux qui sont allés à la messe la semaine dernière ou qui ont pu lire les lectures, hein, on entend très clairement que ça n'est pas possible que Jésus soit Dieu, et enfin, vous savez bien ça dans l'Évangile, que Jésus soit Dieu fait homme, que Jésus soit le Messie, parce qu'il est compromis à première vue avec le péché et avec le mal. Donc c'est l'idée qu'on se fait à l'époque de Dieu. Je ne suis pas très sûr que ça ait beaucoup changé, malgré 2000 ans de christianisme. Et donc il nous faut tenir ces deux mystères, à la fois que, en tout cas, Dieu passe... Tout est mené par Dieu, qu'en même temps, il ne veut pas le mal, hein, et que plus encore, il vient l'habiter, mais l'habiter parce qu'il est présent là où on souffre. Hein. Alors on peut revenir à l'Écriture pour dire ça, hein, voilà, Dieu ne veut pas le mal, déjà c'est clairement dit au début du livre de la Sagesse, moi je cite souvent ça dans les obsèques. Il y a 250 enterrements par an dans ma paroisse, donc ça me laisse un peu d'occasion de le faire. Enfin, je ne suis pas le seul prêtre, et il y a quelques présidents qui sont des fidèles baptisés. Mais je cite souvent ce premier chapitre du livre de la Sagesse, hein, qui dit « Dieu n'a pas fait la mort, il ne se réjouit pas dans la mort du vivant ». Et évidemment, de là, on peut évidemment tirer le texte de manière juste en disant que Dieu n'a pas fait la souffrance et il ne se réjouit pas dans la souffrance du vivant non plus. Donc Dieu ne veut pas la souffrance. L'autre histoire, c'est l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Je trouve que c'est... Il y a une parole dans la fin du livre de la Genèse qui est comme la résolution d'ailleurs du début de l'histoire de la Genèse. Hein. Jacob meurt, vous savez que les frères ont peur que Joseph se venge du mal qu'ils lui ont fait quand ils l'ont vendu, etc. Donc, si vous n'êtes pas familier avec l'histoire de Joseph, hein, je rappelle qu'il est un des préférés de son père, avec le petit dernier qui s'appelle Benjamin. C'est là que vient le Benjamin de la famille, d'ailleurs, c'est parce que le petit dernier c'était Benjamin. Et donc, les frères, par jalousie, vont d'abord vouloir le tuer, puis se dire qu'ils peuvent faire mieux, c'est-à-dire le vendre. Et puis, ils vont le jeter dans cette citerne, hein, qui est, pour les chrétiens, les pères de l'Église vont lire ça comme une préfiguration, évidemment, du Christ. Et il va être vendu, conduit en Égypte, etc. Et puis les frères vont venir avec les habits de Joseph trempés dans le sang d'une bête qu'ils ont tuée, en disant que Joseph s'est fait manger par une bête féroce. Bon. Et Jacob va pleurer son fils, et puis ensuite il va y avoir une famine en Canaan. Ils vont aller en Égypte, et puis il va arriver tout un tas d'aventures. Bon, voilà, vous relirez la fin de la Genèse si vous voulez connaître les détails de l'histoire. Mais ils ne vont pas reconnaître leur frère qui lui les reconnaît. Et puis il y a tout un tas de rebondissements dignes des meilleurs scénarios hollywoodiens. Finalement, voilà, ils se révèlent à eux, ils viennent, ils sont sauvés de la famine en Canaan par le fait que, entre-temps, donc, Joseph était devenu l'intendant des récoltes de Pharaon. Et justement, voilà, tout le monde revient, y compris Jacob, retrouve son fils, tout le monde pleure, s'embrasse, se pardonne, tout est merveilleux. Voilà. Mais Jacob meurt, et là, les frères se disent, ils ont attendu que le père meure pour se venger. Et Joseph a cette parole magnifique, voilà, en disant « Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu en a tiré du bien. » Et c'est une très belle parole, je trouve, pour comprendre, ou en tout cas dire une parole sur le mystère du mal. C'est-à-dire que l'Écriture nous invite, et la Révélation nous invite vraiment à croire que ça n'est pas Dieu qui veut la souffrance et que ça n'est pas Dieu qui veut le mal. Le péché originel, c'est une contradiction dans le plan de Dieu. C'était impossible. C'était impossible, pardon, c'était quelque chose de possible, hein, puisque à partir du moment où Dieu crée, forcément, il crée aussi la liberté, et il crée aussi la possibilité que le mal se fasse, mais ça n'est pas lui qui veut le mal. Par contre, il peut venir nous rejoindre dans le mal, et même d'un mal tirer un bien. Il faut un peu manipuler ce genre de truc avec précaution, hein, voilà, on ne dit pas ça le jour de l'enterrement du bébé, par exemple, ça ne me paraît pas une très bonne idée, il faut d'abord pleurer avec les parents. Mais voilà, on sait tous que des souffrances de notre vie, on a tiré du bien, enfin il y a eu du bien aussi. Mais c'est pas rien, voilà, de dire que Dieu ne le veut pas et qu'en même temps Dieu en tire un bien. Et quelque part, peut-être on peut dire la même chose, voilà, de l'homosexualité. Alors on va s'engager là sur un terrain sur lequel je préfère dialoguer que dire des grandes vérités, mais. Est-ce que donc c'est Dieu qui le veut ? C'est ça, hein, ta question finalement. Voilà, c'est une question complexe. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça d'abord ? Parce qu'on sait bien, et vous savez encore mieux que moi, combien il y a de multiples racines, raisons, voilà, qui font qu'une personne se découvre et devient homosexuelle. Par contre, moi, ce que je crois, c'est que tout est grâce et que Dieu, il peut porter sa grâce à toute chose. Enfin, je veux dire. Concrètement, il y en a sans doute un certain nombre d'entre nous, en plus je pense particulièrement aux parents, là, plus qu'aux personnes directement concernées par l'homosexualité, mais qui n'auraient pas fait le chemin de foi qu'ils ont fait si vous n'étiez pas là. Quoi. Enfin, donc je trouve que ça, enfin, quoi, ça, Dieu, ça lui est égal ? Bah non, je crois pas. Enfin, et peut-être que pour... enfin, alors on ne va pas faire de la fiction, on ne peut pas faire la fiction de nos vies, hein, peut-être que pour un certain nombre... d'entre vous, si vous n'étiez pas concerné par l'homosexualité, peut-être que vous n'auriez pas non plus fait le chemin. Alors on peut toujours dire ça, c'est très gratuit, parce qu'on n'en sait rien, évidemment, c'est de la fiction. Mais en tout cas, mais ce qui n'est pas de la fiction, c'est que c'est vrai. C'est-à-dire que de fait, la sensibilité de vos vies, des chemins de vie, des blessures de la vie, etc., a fait faire un chemin. Et ça, je ne peux pas imaginer deux secondes que Dieu n'en tienne pas compte, quoi. Voilà. Mais je trouve qu'à l'inverse, parce que j'ai entendu la question, quand j'ai dit qu'est-ce que ça veut dire pour nous que notre vie est un don, je parle du mystère de la vie en général, hein, du fait d'être vivant. Alors, de là, certains ont dit, mais alors est-ce que d'être homosexuel, c'est aussi un don de Dieu ? Mais donc ça veut dire que Dieu le veut. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas de dire ça. Je trouve que ce n'est pas si simple de dire... D'un côté, on peut dire, oui, c'est magnifique, peut-être ça peut être très consolant. Et d'un autre côté, enfin, pour ceux qui l'ont vécu douloureusement, je ne connais pas beaucoup de personnes qui ne l'aient pas au moins un peu vécu douloureusement un petit moment de leur vie, si tant est que ce ne soit pas un peu douloureux tout le temps quand même. Enfin, vous voyez, c'est un peu bizarre, parce que Ça voudrait dire que Dieu nous envoie des épreuves pour qu'on puisse grandir. Alors, vous savez, de là où on arrive vite au discours de « Souffrez, mes enfants, vous gagnerez votre paradis », je ne suis pas très heureux avec ce discours-là. Donc, alors, mais vous voyez, c'est compliqué. Parce que d'un côté, si on dit « Ben non, ce n'est pas un don de Dieu », alors on se dit « Ah bon, alors mon homosexualité n'est pas un don de Dieu », et on peut se sentir rejeté en disant ça. Mais d'un autre côté, si on dit que c'est un don de Dieu, vous voyez, ça peut être aussi très dangereux. Parce que vite, ça peut être... Dieu envoie des épreuves, voilà. Enfin, surtout qu'il y en a quelques-uns qui s'en seraient passés. Donc c'est pas si simple que ça. Par contre, je crois que Dieu est là et que non seulement Dieu fait avec ce qu'on est, mais ça c'est vrai pour tout un chacun. Hein. Enfin, je veux dire que ce soit l'homosexualité, nos pauvretés, nos misères, nos égoïsmes, nos machins. Enfin bref, nos péchés, qu'on soit homosexuel ou pas.
Bonjour micro. Je me suis découvert homosexuel à 13 ans. J'en ai terriblement souffert, et c'est vrai que tout en ayant la foi, je criais « Pourquoi mon Dieu? Pourquoi est-ce que tu as permis ça? Pourquoi ?» Mais comme un cri de souffrance. J'ai attendu, je pense, 30 ans, donc j'ai 45 ans maintenant, pour intégrer dans mon inconscient, donc là j'ai même une approche psychique, intégrer dans mon inconscient que être homosexuel était un état. Ça, c'était pour moi important parce que je pense que inconsciemment, ça me culpabilisait quand même le simple fait d'être homosexuel. L'état homosexuel, c'est un état, point barre. Ça ne relève pas d'une question de morale ou quoi que ce soit. L'autre point de réflexion que je me suis donné, c'est ce pourquoi est devenu non pas un seul mot, mais en deux mots. En vue de quoi, Seigneur, as-tu permis que je sois ainsi, parce que je me dis, si tout homme est appelé au bonheur, à aimer, à être aimé et à avoir une vie féconde, je suis appelé à ça. Voilà. Donc, quel est mon chemin, de quelle manière? Voilà, c'est tout ce que je... J'étais debout par hasard, hein, c'est tout.
Donc, merci Romain. Hein. Mais vous voyez, d'une manière... Je pense qu'il faut élargir le problème, c'est que... Enfin, vous savez, la seule grande question en théologie, c'est la question de la liberté et de la grâce. Hein. Saint Augustin a beaucoup développé cette question-là, et c'est toujours la question. Hein. C'est quoi la nature humaine? Qu'est-ce qui est voulu par Dieu et pas voulu par Dieu? Et puis comment ça, la grâce vient, voilà, sauver la nature humaine? Et comment tout ça, ça s'imbrique? Voilà. Et il y a toujours un risque. Vous voyez qu'on met un peu la nature de côté, comme la poussière sous le tapis. Puis il y a la grâce, magnifique, voilà. Mais la grâce, comme ça, c'est un peu la culture hors sol. Hein, voilà. Alors, paraît-il que ça peut marcher pour les plantes. Je ne suis pas très sûr que ça marche très bien pour les humains. Et donc, ce qui est sûr, c'est que, voilà, quand on est homosexuel, en tout cas, on est appelé à... Enfin, une fois qu'est acquis le fait qu'effectivement, c'est pas un choix de vie, mais je pense que là-dessus, ça va, on est à peu près tous d'accord sur le fait que c'est pas choisi, voilà, que c'est... reçu et un moment intégré, voire accepté, etc. Non mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas devenir saint sans le prendre en compte. C'est-à-dire que c'est le chemin à travers lequel, en tout cas, Dieu nous conduit à lui. Mais à nouveau, non pas forcément parce qu'il l'a voulu, mais parce que, quelque part, voilà, ça correspond à ce que dit Romain, c'est un état, donc... Donc c'est par là. Sinon on va rêver, vous voyez, de la grâce d'un côté, qui est une espèce de truc nébuleux, mais c'est à nouveau hors sol, enfin je sais pas comment le dire mieux, mais... Or le Seigneur, il fait avec notre patte humaine. Moi je dis ça aux séminaristes, voilà, que j'enseigne, comme donc vous l'avez entendu, hein. Mais dans une vocation, c'est vrai, a fortiori dans une vocation un peu radicale, religieuse, mais c'est vrai dans toute vocation, vous pouvez vouloir être prêtre comme le père machin, puis il y a un moment, on peut espérer qu'au cours des années de séminaire, on devient prêtre avec ce qu'on est, avec son humanité. Mais c'est vrai dans tous les métiers. Ben, vous pouvez rêver d'être comme tel ou tel... c'est pas dans les métiers artistiques particulièrement. On nous apprend à tenir un crayon, et puis à un moment, on a son style à soi, et puis à un moment, on a un bon artiste quand, effectivement, on fait avec à la fois ce qu'on nous a appris et en même temps avec ce qu'on est soi, quoi. Enfin, et donc, on ne peut pas faire autrement qu'avec ce qu'on est soi. Mais vous voyez, il y a toujours une petite suspicion qui est assez polythéiste et gréco-romaine de penser que c'est Dieu qui décide de tout ça. C'est pas tellement ce que nous dit la Bible, mais après 2000 ans de christianisme, et ça aussi, je le dis souvent, et notamment aux obsèques, parce que évidemment, c'est le moment douloureux. Et quel que soit l'âge, hein, parce que moi je dis toujours ça, quand on meurt à 105 ans, ça paraît évidemment plus jusqu'à 20, mais ceci dit, enfin, la mort en soi, c'est toujours une injustice. Jésus, il est venu sauver tous les gens qui meurent malades ou en bonne santé, jeunes ou vieux. Enfin, voilà. Parce que parfois, à 105 ans, c'est pas toujours très facile non plus de mourir. Enfin, voilà. Donc, mais on a toujours cette idée, vous voyez, que c'est Dieu qui décide, quoi. Mais on a plus une vision de Dieu qui est proche de Zeus que du Père de Jésus, notre Seigneur, quoi. Je ne connais pas assez bien pour bien vous en parler, mais je m'intéresse de plus en plus à la pensée de Maurice Zindel. Il y a peut-être des gens qui connaissent bien Zindel ici. Mais vous voyez, je crois que Zindel, il dit ça très bien. On est très prisonnier d'une certaine théologie que j'aime bien par ailleurs, mais qu'on a lue de manière sans doute d'ailleurs un peu trop restrictive, notamment Thomas d'Aquin. Je veux dire qu'on a lu de manière trop restrictive, donc c'est pas un reproche de Thomas, mais de la manière dont on lit Thomas d'Aquin. Vous regardez, le pape François, il cite souvent Thomas d'Aquin, c'est assez marrant, parce que Thomas d'Aquin, ça parle un peu de la loi naturelle, tout ça, machin, etc. Et en fait, il le cite toujours avec des citations surprenantes de trucs, on se dit, bah, c'est pas Thomas d'Aquin qui a pu écrire ça. Si, c'est simplement que comme on a cité autre chose que ça, du coup, on a une vision un peu limitée de Thomas d'Aquin. Et donc on a toujours une vision de Dieu tout-puissant, etc. Mais dans le mystère du Christ, Dieu manifeste bien que sa toute-puissance, elle n'est par évidence pas une toute-puissance, justement, de Zeus sur son trône, quoi. La toute-puissance de Dieu, enfin, c'est la parabole du Père miséricordieux. Enfin, il me semble que c'est Jésus qui a parlé de ça. Bon. Voilà. Enfin, c'est-à-dire, si vraiment on lit l'Évangile, en fait, c'est là, quoi. Enfin, bon, voilà. Mais tout en tenant... Oui, le fait que c'est Dieu qui tient le cours des... qui mène le cours des temps. Alors, c'est Thomas, il distingue les causes premières et les causes secondes. Donc, voilà, c'est par Dieu qu'on a la vie et qu'on est maintenu dans l'être. Et c'est vrai... C'était vrai même pour les pires crapules de l'histoire, parce que la vie, elle vient forcément de Dieu. Je vous rappelle que le diable lui-même doit sa vie d'un don de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'il est le diable, parce que c'est ce qui le met très en colère, c'est qu'il ne se soit pas donné sa vie à lui-même, mais que même sa vie dépend de Dieu. Enfin, son existence, en tout cas, le fait qu'il puisse exister. Donc il faut tenir ça, parce que sinon... on va vite arriver à un Dieu alors qui va être vidé de son contenu et de sa puissance, justement. Mais parfois, on a ça... Je sais pas pourquoi je prends cet exemple-là, mais je suis sûr que certains d'entre vous se disent ça de temps en temps. Vous savez, parfois, les gens, ils nous disent... Vous savez, les gens qui mènent des vies de patachons, machin, etc., qui ont rejeté Dieu... Moi, je suis sûr qu'entre le moment où ils meurent et le moment où ils voient Dieu, ils ont le temps de se retourner et comme ça, eh ben, Dieu peut les sauver. Alors, moi, j'aime beaucoup dire, dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué que le jugement, c'est à partir du moment où on meurt. Alors, on se dit, oh, il est terrible ce prêtre. Et alors, je dis toujours, mais non, c'est parce que vous avez une vision épouvantable de Dieu. Vous pensez que Dieu, il a besoin que la personne se retourne après sa mort pour les sauver. Mais il a qu'une envie, Dieu. C'est de le sauver. Donc, il n'a pas besoin que la personne se retourne. Il fait avec sa vie, mais c'est pas un expert comptable. Pardon, j'ai rien contre les experts comptables. Mais en tout cas, voilà, il n'est pas là pour... hein, enfin, je veux dire, il ne passe pas sa vie, notre vie, à compter les bons et les mauvais points. Quoi, ça ne marche pas comme ça. Enfin, sinon, c'est horrible. Et donc, à la fin, bah, il prend notre vie et puis voilà, puis il nous sauve. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours cette idée que... C'est, après notre vie, il faudrait qu'on ait encore un moment pour qu'on puisse se sauver. Mais ce n'est pas nous qui nous sauvons. C'est Dieu qui nous sauve. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut qu'on y croit, quoi. Enfin, c'est ce que nous a dit Jésus. Et donc, enfin, je dis ça parce que, quelque part, ça rejoint cette même question. Vous voyez, c'est... Est-ce que c'est Dieu qui l'a voulu ou pas? Si c'est mal, non. Et si ça nous fait du mal, non. Est-ce que, par contre, Dieu peut faire quelque chose avec ça? Ça, oui, sinon, il n'est plus Dieu. Il ne peut pas nous sauver, donc oui. Alors, non, mais évidemment, c'est... Oui, pas sans notre collaboration, oui. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi, dit le grand Augustin. Oui, bien sûr. Mais pour qu'il y ait notre collaboration... Après, c'est toute notre vie, hein. Mais il faut voilà, faire avec justement nos blessures, nos chemins, nos, etc., etc. Puis on joue un peu ce que j'ai dit ça. Bon, je ne sais pas si c'est très juste, je ne suis pas un grand spécialiste de la théologie bouddhiste, donc, mais je dis souvent, ouais, j'ai dit ça hier, c'est le but de la foi chrétienne, c'est pas un nirvana. Alors, ceci dit, le but de la foi chrétienne, c'est quand même d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Enfin, c'est quand même ce que Jésus nous a dit. Donc, il y a une forme de nirvana qui est là, qui est cette perfection-là. Mais c'est une perfection qui se fait, on le sait bien, avec, avec toutes les purifications de notre vie, quoi. Et donc, bah, la dimension du chemin, elle est vraiment essentielle. C'est vraiment la grâce du pape François, hein. J'ai un ami qui a dit ça pas très longtemps, j'ai trouvé que c'était très juste. Il dit, mais avec le pape François, les sommets n'ont pas changé. Hein. Il y a des gens qui voudraient que les sommets aient changé avec le pape François par rapport à Benoît XVI et Jean-Paul II. Car vous savez qu'il y a eu trois papes dans l'histoire, n'est-ce pas? Parce que parfois les gens ils vous disent ça, mais enfin, il y en a eu d'autres avant qu'on dit aussi d'autres choses. Donc, bon. Mais donc, moi je crois profondément qu'effectivement les sommets n'ont pas changé, mais la grâce de ce pape, parce que ben, c'est la grâce de son humanité, de son histoire, sans doute aussi de sa spiritualité jésuite, voilà, et donc c'est la grâce de Dieu de nous le donner, et c'est vraiment de montrer le chemin. Je trouve qu'il a vraiment le... Ah pareil, je ne permettrais pas de dire que Jean-Paul II et Benoît XVI ne montraient pas le chemin, mais la grâce de ce pape, c'est vraiment d'expliquer, voilà, et de s'intéresser... Pas seulement de savoir si on est arrivé ou pas arrivé, mais de savoir si on chemine, voilà, et si on a envie de cheminer. Et il montre ça magnifiquement. Si vous n'avez pas lu Amaury et Laetitia, il faut vraiment le lire. C'est pas le couple de l'année, hein, Amaury et Laetitia, hein, c'est le titre de l'exhortation du pape. Voilà. Oui, surtout, non, pas Laetitia, bon. Et donc c'est... voilà. Ou Maurice et Laetitia pour une autre génération, si vous préférez. Bon. Jonathan.
Ça marche. Oui. J'avais une question, moi, qui rejoint justement le fait d'être homosexuel. Moi, j'ai besoin de comprendre toujours les choses, que ce soit sur le fait de revoir sa vie, l'intervention de Jésus, que ce soit à la fois dans les épreuves ou dans les bons moments. J'ai besoin de comprendre, est-ce que ça nous saura expliquer là-haut pourquoi on a été homosexuel dans notre vie?
Je vais répondre comme j'ai répondu à la première question. Je ne sais pas, Dieu le fait. Mais oui, non, mais en tout cas, j'ai envie de dire oui.
Parce que ma pensée, c'est, je rejoins un peu ce que tu disais, parce que moi, quand je regarde la cause homosexuelle, on est très nombreux et il y a beaucoup d'artistes. On répare beaucoup de choses. C'est ce que je vois aussi. On a une sensibilité surdimensionnée qui fait que on a l'empathie, la sympathie, l'intuition. On a beaucoup de générosité, d'amour. Et si nous, on n'était pas là, ben le monde ne serait pas ce qu'il est non plus.
Bah, là, pour le coup, Jonathan, il y a quelques contre-exemples et quelques bons exemples d'hétérosexuels qui sont artistes.
C'est quand même... Mais... C'est juste... je ne fais pas de comparaison, mais j'essaie de comprendre.
Mais j'entends. Non, mais est-ce qu'on aura l'explication au ciel? Ça, pour le coup, moi, j'ai envie de dire oui, parce que j'espère qu'au ciel, on aura l'explication sur... Surtout le chemin de notre vie. Enfin, je veux dire, soit l'homosexualité et que chacun... Parce que, quelque part, c'est ça le repos dont on parlait hier, hein, je vous ai parlé du repos, mais voilà, en fait, je pense qu'on est reposé quand on est... Enfin, être reposé, c'est ne plus être tiraillé et ne plus être... Parce que c'est ça qui est fatigant dans la vie, c'est d'être tout le temps... Enfin, c'est ce que dit saint Paul, hein, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, le mal que je voudrais ne pas faire, je le fais, etc. Et donc, on passe notre vie à être tiraillé, à se dire que la chose la plus importante, c'est de commencer par prier, mais on n'y arrive pas, etc. Et à penser qu'aimer, c'est quelque chose de difficile, alors que ça devrait être quelque chose de reposant, comme j'ai dit hier. Et donc, au ciel, on sera dans ce repos, et je pense que... Oui, il y aura... Je pense que Dieu a l'esprit de synthèse, oui, ça, certainement. Il nous montrera les fils d'or de notre vie, oui. Ça, et en tout cas, dans le sens de ce que tu dis, ça, je suis profondément convaincu qu'évidemment que... Non, et à nouveau, je ne dirais pas que l'homosexualité est une grâce, parce que... D'abord, grâce à Dieu, c'est un peu compliqué comme titre aujourd'hui. Mais parce que je trouve que, tu vois, ça va être vite difficile pour ceux qui se disent, bah, merci, si elle a pu passer à côté de moi, j'aurais plutôt dit oui. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Mais par contre, qu'il y ait une grâce qui vienne des personnes homosexuelles, ça, bien sûr, j'en suis convaincu. Ouais. Mais est-ce que pour autant on peut dire que c'est une grâce de Dieu, tu vois, je sais pas. Et que Dieu en tire une grâce, ça, oui. Mais c'est l'enjeu, tu vois, Jonathan, pour toi qui es. En plus, un bébé baptisé. Ça, c'est. Enfin, le père Thomassé avait dit ça très bien. Premier week-end que j'ai fait avec Dweck, donc c'était avec le père Thomassé. L'Église, elle a trouvé, hein, justement, son un discours qui permette de dire ça de manière positive. Moi, je lui avais posé la question de dire comment est-ce que, sans dire que l'hétérosexualité et l'homosexualité sont absolument la même chose pour l'Église catholique, parce que je ne vois pas comment on pourra le dire sans tirer très fort sur ce que dit la Bible, ça me paraît complexe, mais comment est-ce qu'on peut ne pas être enfermé là-dedans pour sortir de cette espèce de dichotomie dont on ne va pas s'en sortir, puis on va blesser beaucoup de gens à partir de ça, pour dire autre chose, de dire ben voilà quelle est la beauté de l'hétérosexualité, et de trouver aussi un discours, pas seulement « oui, on peut s'aimer quand on est des personnes du même sexe », enfin ça, oui, d'accord, mais plus que ça, enfin, de dire quelle est la beauté de cela, qu'est-ce qu'il y a comme grâce autour de cela, et voilà. Mais là, ça, pour le coup, c'est plus à vous d'en témoigner que... Mais il faut encore que, quand on en témoigne, l'Église entende et que l'Église... voilà. Honnêtement, il y a quand même des choses qui sont clairement en train de bouger. Voilà. Et quelque part, même si, en partie, on peut rentrer dedans si vous voulez, hein, mais les questions de la pédophilie obligent l'Église à s'interroger dans ses discours sur l'asexualité en général, alors en mettant chaque truc bien à sa place et en ne faisant pas des grands mélanges. Voilà. On citait un extrait de... Je cherche Bénédicte Durgard, mais peu importe, du film Grâce à Dieu, là où effectivement il y a des jeunes qui viennent et qui s'entendent dire par un prêtre, oui, bah, vous savez, on y travaille en ce moment, là, toutes les questions de l'homosexualité, de la pédophilie, de tout. Très bien, mais vous savez que c'est pas tout à fait la même chose. Ah bon, d'accord. Mais par contre, je pense que, on entend bien hein, que dans le discours de l'Église, il y a eu ça aussi. Mais par contre, je crois quand même que c'est les scandales vont obliger l'Église à redire aussi de manière positive comment elle accueille les personnes homosexuelles. Mais vous voyez, ce midi, on se redisait ça. Moi, je disais ça. Peut-être que c'est pour me défendre comme prêtre, hein, j'en sais rien, mais c'est quand même pas si simple. Vous savez bien qu'il y a ce qu'on dit, que dit l'Église. Enfin, il y a ce que dit l'Église, et de fait, parfois, elle a des paroles plus que malheureuses, des paroles blessantes, etc. Surtout, il y a beaucoup d'ignorance, je crois, en fait. Beaucoup de non-connaissances ou d'idées toutes faites, voilà, de culture livresque, mais c'est, là aussi c'est un peu hors sol. Hein. Après, il y a honnêtement le quotidien. Donc je sais sans doute qu'un certain nombre d'entre vous ont pu être blessés, notamment en confession, par des réactions de prêtres, mais au quotidien, il y a aussi quand même, je pense, beaucoup d'accueil. Puis il n'y a pas que les prêtres dans l'Église, puis il me semble l'Église, c'est aussi tous les baptisés. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de baptisés très accueillants. Et à l'inverse, il y a aussi tout le travail à faire dans le monde. Hein. Enfin, et donc on disait ça ce midi. Voilà, pardon, je cherchais Bénédicte Durgard, mais enfin, je veux dire, il n'y a pas que les chrétiens. Enfin, peut-être que si on faisait un sondage, j'en sais rien, peut-être qu'il ne faut même pas le faire, j'en sais rien, mais peut-être qu'on trouverait plus de compassion, j'espère en tout cas, chez les chrétiens, que dans le monde en général. Enfin, moi j'entends des trucs d'enfants qui ne sont certainement pas catéchisés, puisque en tout cas, ils ne sont pas catéchisés chez moi, pourtant ils habitent chez moi. Je veux dire, on entend bien dans les discours une homophobie latente, quoi. Hein.
Vraiment. Voilà un dominicain qui respire large et qui part d'une réflexion de... souvent, il reçoit des gens qui disent « Mais c'est quoi ce qui est permis, mon père ? C'est quoi ce qui est interdit ?» Et leur dit « Si vous réfléchissez à ce niveau-là, il n'y a pas de porte de sortie, c'est une impasse, forcément. » Et ça rejoint aussi ce que nous avait dit Thomas Say, ça rejoint ce que nous avait dit aussi Jean-Michel Longniaux lorsqu'il était venu nous parler de l'homme d'un point de vue plus philosophique que théologique. Et là, c'est une réflexion en langage très très simple. Et c'est en fait, toute l'histoire avec Onésime, hein, celui qui est utile mais qui est inutile. Et c'est un peu notre histoire à nous.
Alors, ceci, c'est intéressant de le dire aussi comme ça. Vous voyez, on est souvent en termes d'efficacité, en fait. On a une morale très technologique, hein, vous savez, quand on y pense. Et donc, le pourquoi et pourquoi est intéressant à ce titre-là aussi. Donc, on se demande toujours, vous voyez, enfin, c'est quoi la finalité, mais d'un point de vue un peu technique, quoi. À quoi ça sert je sais pas à quoi ça sert les fleurs, enfin, je veux dire, enfin, si, il y a plein de choses, mais enfin, là, elles servent à rien, je veux dire, on va pas les manger, on va pas en faire de la pharmacie, on va pas en faire... Sauf que c'est beau, quoi, mais la beauté sauvera le monde, n'est-ce pas ? C'est ce qu'a dit, en tout cas, Dostoïevski. Quelque part, la question, c'est ça, c'est de se dire... En tout cas, il y a pas de vie avec laquelle on ne puisse pas faire une œuvre d'art, ou en tout cas, se laisser travailler et se... Et à nouveau, la valeur du chemin qui est fait, c'est ça qui est important, quoi. Même si on court pour obtenir la couronne, etc., dit Paul, mais évidemment, il y a ça, mais... Parce qu'on n'a pas de vie sans but. Parce que si, comme chrétien, on croit qu'on... Enfin, on ne croit pas, on sait. Normalement, tout le monde le sait, mais ce n'est pas si évident que ça, que la vie a un terme et qu'on est mortel. Mais entre-temps, on n'a pas d'autre moyen que de cheminer. Et cette histoire de la liberté, vous voyez, c'est parce qu'on est encore très prisonnier d'une morale très légaliste. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais les 10 commandements, est-ce qu'il faut y obéir parce que Dieu a dit que c'était ça qui était bien et mal? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a ça qui est bien et mal que Dieu l'a dit? Vous allez me dire, c'est presque pareil, mais non, sauf que ça vaut le coup de se poser la question, vous voyez. C'est pas parce que Dieu dit « tu honoreras le jour du sabbat » qu'il faut honorer le jour du sabbat. C'est parce qu'il faut honorer le jour du sabbat que Dieu dit qu'il faut honorer le jour du sabbat. Mais ça change tout en morale, vous voyez. C'est-à-dire que c'est la sagesse de Dieu, quoi. Enfin, c'est la différence entre une morale légaliste et du coup une morale plutôt des vertus, quoi. Une morale du bonheur. Là, je renvoie à ce qui était... même si ça commence à faire presque 3 ans, mais à ce week-end avec Thomasé qui nous a bien redit ça, le père Thomasé. Hein, mais c'est intéressant de se poser la question, quel rapport on a nous-mêmes aussi à la morale et à la loi, quoi. Est-ce que la loi est un chemin de vie, ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route, en sachant que certains jours on y arrive, puis certains jours on n'y arrive pas, mais que, voilà, c'est pas parce qu'on n'y arrive pas qu'on trouve pas ça beau, c'est parce qu'on n'y arrive pas, mais donc Dieu, il en tient compte de ça, du fait que pour l'instant, on n'y arrive pas. Il y a une catégorie en droit canonique, vous en rêvez, hein, que je vous parle de droit canonique, parce que je trouve que je suis canoniste aussi dans ma formation, mais... Et en droit canonique, il y a un terme, alors, pardon, il peut ne pas nous sembler très joli, mais en fait, moi, je le trouve assez intéressant. On parle de « incapacitas », et donc d'incapacité. Et le pape François, il a dit ça, alors pas avec ces mots-là, mais il utilise cette catégorie-là dans « Gaudete et exultate hein, », l'exhortation sur l'appel à la sainteté, et qu'on a lu donc, au camp marché prière l'été dernier. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Vous avez jusqu'à la Toussaint, par exemple, pour préparer la Toussaint, ça vous laisse un peu de perspective. Et à un endroit, je n'ai pas la référence en tête, mais sur Internet, vous retrouverez ça facilement. Il y a un endroit où il dit « Tous ne peuvent pas tout ». Et en fait, c'est comme toujours chez Pape François, il a le sens de la formule, c'est assez simple. C'est très intéressant qu'un pape dise ça. « Tous ne peuvent pas tout ». Et donc, on ne va pas passer notre vie à être désolé de ne pas pouvoir tout, quoi. Donc la question, c'est peut-être plutôt de se dire « Qu'est-ce que je peux ?» Voilà. Enfin, ceci dit, c'est pas mal de se dire « Qu'est-ce que je peux pas ?» Parce que c'est bon aussi de faire l'analyse de ça, et peut-être aussi pour s'en déculpabiliser, aussi pour se dire « Qu'est-ce que je peux pas ?» Puis dans ce que je peux pas, en fait, « Qu'est-ce que je peux ?» Mais j'ai pas très envie. Bon, mais ça, parce que chaque chrétien doit faire un peu l'effort de se dire « Bon, il y a des choses, je dis « Je peux pas », en fait, c'est pas tellement que je peux pas, c'est que je peux pas. Mais il y a vraiment des choses « Je peux pas ». Ben, si je peux pas, je peux pas, quoi. Mais donc, du coup, comment je vais faire avec ça? Faudrait relire, je vous le dis là parce que j'y pense, mais faudrait relire le paragraphe, le contexte un peu global.
Non, je voulais juste dire, je crois que le Christ, quand il a porté sa croix, il est tombé. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on ne peut pas? Je serais tenté de dire, mais l'important, c'est qu'est-ce qu'on essaye de faire si on n'arrive pas. Grave, Dieu, il voit l'intention de la personne. Et moi, il y a quelque chose que j'ai vécu profondément, personnellement, que j'ai découvert, c'est le désir de familiarité de Dieu avec l'homme. Il y a quelque chose de, pour moi d'hallucinant. Et je pense à ça parce que c'est vrai qu'il y a ce côté légaliste, etc. Et parfois cette projection un peu du père Fouettard, du Dieu pervers, du Zeus, etc. C'est pas Dieu ça. Et l'important, je me dis, la finalité, le moteur même de la course de saint Paul, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre. C'est ça le moteur de base. Et après, si on commence, je réagis un peu à ce que tu dis, parce que je dis, si je commence à me dire, à être comptable, effectivement, de ce que j'arrive à faire, pas à faire, etc., c'est pas important, parce que si je commence aussi à rentrer dans cette dynamique-là, je vais aussi commencer à retourner sur moi-même. Je sais pas, je suis peut-être à côté de la plaque, hein, dans ce que je dis, hein, mais...
Non, j'ai pas compris la fin, mais...
Oui. Ben, si je commence à dire ce que j'arrive à faire, ce que j'arrive pas à faire, si j'arrive pas à me désoler, etc., c'est un peu un retour sur soi.
C'est pas très important.
Je crois que j'ai dit que c'était, non, que c'était important. Que le pape François, il dit tous ne peuvent pas tout. Et donc c'est important de savoir ce qu'on ne peut pas pour travailler sur ce qu'on peut. C'est ça que j'ai dit, non enfin, oui. Enfin, en tout cas,
j'ai mal compris.
En tout cas, c'est ça que j'ai essayé de dire. Non, mais c'est pas parce que je l'ai dit que c'était clair. Hein. Mais c'est ça que j'ai dit. Dans la liturgie, c'est merveilleux. Il y a l'avant et il y a le carême. Vous voyez, le carême, ça nous rappelle que sans nous, Dieu ne peut pas nous sauver. C'est-à-dire, pendant le carême, on ne mange pas de chocolat. Est-ce que pendant l'avant, on s'en fout, en fait? Mais c'est très intéressant. C'est deux périodes de conversion, deux périodes de préparation, mais très différentes. Et moi, je trouve que c'est une grâce, vous voyez? Dans le carême, bah oui, on se dit, bah si je ne fais pas d'effort, mais là, ce n'est même pas une question de chrétien ou pas chrétien, c'est d'éducation. Enfin, faire que tout parent, qu'il soit chrétien, bouddhiste, musulman et croyant en rien, enfin ceci dit, on croit tous en quelque chose. Ceci dit, Chesterton disait que les gens qui ne croient pas en Dieu ne croient pas en rien, mais en n'importe quoi. Donc, parfois c'est vrai. Je crois que dans le carême, on nous rappelle que sans effort, on ne peut pas y arriver, mais dans l'avant, on nous rappelle que ceci dit, ce qui compte, c'est que Dieu vienne vers nous. Quoi. Vous voyez, du coup, il faut tenir les deux. Voilà. Faut tenir les deux. Et l'avant, il y a la douceur de l'enfant Jésus qui vient nous courir dans les bras. Et dans le carême, bah, il y a la rudesse. Mais c'est l'eau et le vin du bon samaritain. L'huile et le vin du bon samaritain. Vous savez, on dit qu'il verse dans les plaies de l'huile et du vin. Hein, et les pères de l'Église interprètent toujours ça en disant, dans l'éducation, dans la vie chrétienne, dans le etc. etc. Bah, il faut la douceur de l'huile, et puis il faut un petit peu de... Allez, on y va, quoi. Du vin, qui est un peu plus...
Moi j'ai une petite question, je sais que le père Yannick est pressé, donc il va devoir courir pour aider son vicaire à dire la messe,
oui.
Juste après. En fait, nous par rapport au groupe qu'on avait hier aussi, c'était la question de ce qu'on vit cette semaine, ce qu'on va vivre cette semaine. Comment le père Yannick Couette entre dans la semaine sainte, si c'est pas indiscret, en considérant cet
amour
du Seigneur pour lui. Et nous, on avait la question justement de cet amour du Seigneur pour lui. Est-ce que c'est cet amour qu'il se soit livré pour nous, et que donc du coup, c'est particulièrement cette semaine que ça résonne, donc le terme particulier qui est dans la question, est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est cet amour particulier qui nous donne au quotidien, avec bien sûr le fait qu'il s'est livré pour nous, mais aussi tout cet amour qu'il nous donne toute l'année, toute l'année liturgique. Voilà, donc on avait les deux positions en disant, bah, pourquoi plus la semaine sainte? D'autres qui disaient, en effet, la semaine sainte, ça me fait vraiment rappeler que ce don total, il est important pour moi. Alors, voilà, juste une question plus personnelle peut-être, sur si c'est pas trop...
C'est par rapport à la première question que j'ai posée, c'est ça?
Par rapport à la première question d'hier, exactement.
Oui. Alors d'abord, j'ai dit à Cyril que c'est pas parce que je posais des questions que j'avais les réponses, en fait. Parfois, je me pose aussi des questions auxquelles j'ai pas moi-même les réponses. Pourquoi particulièrement la semaine sainte? Mais parce que j'ai envie de dire que là encore, vous voyez, c'est parce qu'on n'est pas dans la culture hors sol et on a besoin. Enfin, moi, je trouve que c'est une grâce, la liturgie, c'est merveilleux, quoi. Que chaque année ça revienne. Voilà, on a besoin d'entraînement intensif, quoi. Enfin, mais comme la vie ordinaire a besoin de vacances, de périodes de boulot plus intenses, enfin, ça, on s'en passerait éventuellement, mais aussi, surtout, de périodes plus tranquilles, etc. Enfin, je veux dire, le rythme de l'année liturgique nous aide à. Voilà. Je pense que c'est aussi lié à ce que je disais hier sur l'émerveillement. Vous voyez, on peut. Je crois que c'est. Enfin, on a eu un évêque à Chartres qui s'appelait Jacques Perrier, qui a après été évêque du diocèse de Lourdes. Je regarde ceux qui viennent de ce beau diocèse, mais voilà. Et il disait ça, en fait. Le propre du chrétien, c'est vraiment de s'émerveiller, quoi. Et donc, pour s'émerveiller, ben, il faut. Faut se dire que, enfin, c'est la première fois que c'est Pâques, quoi. Bon, enfin, cette année, vous allez me dire, ce sera la seule fois d'ailleurs. Bah oui, sauf que c'est comme ça, quoi. Faut pas se dire, c'est mon xème Noël, c'est un xème Pâques. Bon, bah oui, tous les ans c'est la même chose. Ouais, mais tous les ans c'est merveilleux, quoi. Merci Maïla pour cette intervention. Bon, je sais pas, voilà. En tout cas, comment est-ce que je rentre dans la semaine sainte? Pas avec le désir de m'émerveiller. Moi, je vais baptiser Laurine et Nicolas et célébrer la confirmation de. Et la première communion de Dimitri, c'est pour un prêtre en ce moment, c'est un peu difficile. C'est quand même pas très simple. même si, enfin, je vous dis ça en même temps, hein, moi à nos gens, c'est pas, voilà, je trouve que c'est assez paisible, mais c'est quand même un peu douloureux cette période. Et donc de voir deux jeunes, voilà, Laurine, qui, dont la, sa propre maman n'était pas baptisée, avec sa petite histoire, hein, elle se prépare au baptême, et puis sa maman meurt de la grippe au milieu de sa préparation au baptême, vous voyez, quand on a 22 ans. Voilà, elle a eu un accident qui faisait qu'elle avait une fragilité et qui fait sans doute qu'elle est morte de la grippe, mais dans le genre, pourquoi hein, c'est vraiment... À part la réponse Saint-Thérèse d'Avila, hein, quand on sait comment vous traitez vos amis, on n'est pas surpris que vous ayez autant d'ennemis. Par cette réponse-là, je n'en ai pas trouvé beaucoup, mais voilà. Mais c'est vrai, Saint-Thérèse d'Avila, elle a dit ça, je trouve que c'est très, plein de bon sens. Mais voilà, donc c'est, ça c'est mon émerveillement, quoi, de se dire comment est-ce que deux jeunes qui ont 22 et 23 ans aujourd'hui demandent le baptême, quoi. Enfin, je l'ai appelé vendredi, là, enfin, donc avant-hier, en venant ici. Oui, sur la route, dans la voiture, c'est pas bien, mais... Et elle me disait, ah, justement, j'étais en train de lire Gaudete et Exultate, je suis allé à la FNAC pour trouver Laudate aussi, mais j'ai pas trouvé, alors j'ai trouvé ça, je pensais que c'était bien. Je lui ai dit, oui, c'est une bonne idée. Elle n'est même pas encore baptisée, qu'elle est en train de lire l'exhortation du pape François sur l'appel à la sainteté. Donc, voilà, je sais pas, je prépare pas qu'en préparant le baptême de Laurine et de Nicolas et en m'en réjouissant grandement.
Je crois qu'on va être obligé de terminer. En tout cas, un grand merci, Pierre-Yannick.
Merci à vous.
Votre présence. Merci à vous.